autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous demander jusqu'où ira la chimie dans la connaissance et l'analyse de la matière qui nous compose, nous et notre environnement, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, mais aussi dans son implication au quotidien dans nos vies, pour le meilleur, la traque des polluants, la surveillance de notre santé, la résolution d'affaires criminelles ou la détection de contrefaçons, ou pour le pire. Peut-on, doit-on tout analyser, tout mesurer? Voilà ce que nous allons nous demander avec notre invité, Stéphane Sarade, chimiste engagé dans une vraie réflexion sur cette discipline multiforme et omniprésente. Autour de la question jusqu'où ira la chimie? Bienvenue. Bonjour Stéphane Sarade.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes chef du département de physico-chimie au CEA de Saclay et directeur de recherche, chimiste engagé dans ce qu'on appelle la chimie verte. Vous l'êtes aussi dans la réflexion sur votre discipline, auteur de plusieurs ouvrages grand public aux éditions du Pommier, La chimie d'une planète durable, La chimie est-elle réellement dangereuse? Vous venez de publier dans la collection Les grandes petites pommes du savoir, Jusqu'où ira la chimie? De la Joconde au test ADN, l'analyse chimique est en effet, Stéphane Sarade, à la base des travaux de recherche bien sûr, mais elle est aussi impliquée à tous les niveaux dans notre univers quotidien, d'où l'intérêt, voire peut-être l'urgence de s'interroger sur cette omniprésence de la chimie.
Oui, vous l'avez dit, la chimie est omniprésente. Nous sommes, vous et moi, des machines chimiques à la base.
Nous sommes des machines chimiques.
Voilà, on a souvent tendance à l'oublier. Et nous sommes entourés d'un univers de chimie. Cette présence, cette omniprésence, c'est aussi ce qui rend la chimie parfois anxiogène, puisque la chimie, on l'a un peu partout. Même des fois, on ne voudrait peut-être pas la voir. Et l'idée de ce livre a été d'aborder un petit pan de la chimie, de la discipline, de l'aborder par la notion de l'analyse pour essayer de comprendre quels sont les enjeux et où ça va nous mener, cette mesure.
Autour de la question jusqu'où ira la chimie, première piste de réflexion sonore tout de suite avec le mix alchimique de Charles Pélabon.
Dans notre monde moderne, il y a 85 000 substances chimiques sur le marché. Et nous ne savons rien de la plupart d'entre elles.
La chimie est pleine de surprises. C'est pas qu'un truc emmerdant, quoi.
J'avais envie de faire une analyse.
Lors d'une réaction, des liaisons entre les atomes des molécules sont cassées. D'autres sont créées.
La chimie, on va dire, commence là où la physique s'arrête. Ce sont des molécules et des ions qui sont des molécules souvent largement naturelles. On sait aussi synthétiser des molécules artificielles.
Monoxyde de carbone, dioxyde d'azote, benzène. À forte concentration, ces gaz provoquent une pollution atmosphérique néfaste pour l'environnement et la population.
Les autres choses, c'est bien sûr voir qu'est-ce qui se passe du point de vue chimique dans le cosmos.
Les ressources de la Terre s'épuisent. Alors les chimistes se sont arrachés les cheveux pour trouver des solutions.
Les matières premières de demain, ce sont essentiellement les déchets. Pour la chimie, ça va être de l'engrais, des plastiques, des diluants qu'on va retrouver par exemple pour le vernis à ongles, etc.
Léonard a mis 4 ans pour réaliser la Joconde. Et si le sourire de la Joconde est si particulier, c'est peut-être parce qu'il y a eu cette subtilité et peut-être que la chimie de ces glacis superposés en grand nombre de couches permet d'expliquer ces 4 ans.
Il faut pratiquer une activité physique régulière qu'il ignore encore. Elle permet de sécréter une hormone du bonheur bien connue des sportifs, l'endorphine.
Depuis l'Antiquité, des athlètes ont tenté d'améliorer leur performance par d'autres moyens que l'entraînement.
Qu'est-ce que vous faites?
Une analyse de sang en cas d'infection.
Là, c'est ce qu'ils utilisent pour préparer la drogue. Ça, c'est de l'iode pour la réaction chimique.
On se sert de la chimie en médecine légale quasiment tous les jours.
Dans un dossier criminel, l'ADN, c'est l'argument massue, c'est la preuve confondante.
Secouons, chauffons un peu, les réactions s'accélèrent et deviennent parfois explosives.
Explosif, la chimie, vous voulez réagir, Stéphane Sarade, est-ce que vous voulez
Oui, je réagis. D'abord, je me semble avoir reconnu un accent du Sud dans votre présentation.
Le vôtre, hein. Voilà. Vous étiez notre invité il y a quelques années,
j'ai reconnu mon accent. Non, votre une phrase, oui, mais la chimie, c'est pas seulement qu'un truc emmerdant.
Ça vous plaît bien.
Ça me plaît bien parce que oui, je l'entends souvent. Moi-même, je l'ai ressenti, hein, cette notion.
Vous nous rassurez.
Voilà, d'ennui profond, voilà, par rapport à la chimie, par rapport aux études de chimie. Et c'est vrai que beaucoup de nos concitoyens ont souffert, hein, sur les bancs de l'école en essayant d'apprendre la chimie.
J'en fais partie. En même temps, quand je vous lis, je souffre plus. Donc, c'est pas mal, hein, autour de la question. Jusqu'où ira la chimie, Stéphane Sarad? En fait, ce qui vous intéresse, là, dans ce petit livre, c'est une partie de la chimie, vous l'avez dit, qui s'appelle la chimie analytique, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que la chimie analytique?
Alors, la chimie analytique, c'est une discipline, effectivement, transversale de la chimie. Donc, la chimie, pour faire simple, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un alphabet. Et en chimie, il n'y a pas 26 lettres dans l'alphabet, il y a un tableau de Mendeleïev, qui est un tableau qui rassemble l'ensemble des éléments chimiques. Et la chimie va avoir pour vocation de mélanger, faire réagir les éléments, donc pour créer donc de nouveaux mots, hein, des molécules, pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Pour aller beaucoup plus loin, et dans l'infiniment petit, et dans l'infiniment grand, on y
viendra. Voilà, et aussi aller loin dans la connaissance, et dans la compréhension.
De tout ce qui fait nous-mêmes et notre univers.
Hein. Exactement. Et pour arriver à comprendre, pour arriver à évaluer, pour arriver à identifier, il faut analyser. Donc il faut être capable en permanence de pouvoir identifier, mesurer les quantités, les volumes de produits chimiques, d'éléments chimiques mis en œuvre.
Et éléments chimiques et produits chimiques, serait quoi la différence entre l'artificiel et le...
Alors pour moi, l'élément chimique, c'est la lettre de l'alphabet, et le produit chimique, c'est le mot. Ou la phrase.
La manière dont on combine tous ces éléments.
Quand on combine pour en faire des molécules, plus ou moins simples, plus ou moins complexes. Donc l'élément de base, hein, la lettre de base, c'est l'élément chimique, le sodium, le chlore, les fameux éléments qui sont dans le tableau de Mendeleïev. Et la nature, avant nous-mêmes, hein, a commencé par les combiner, ces éléments, puisque nous sommes des êtres vivants et nous existons parce qu'un jour, des éléments se sont combinés pour fabriquer des molécules de plus en plus grosses, de plus en plus sophistiquées. Et la vie a pu être rendue possible par la naissance de l'apparition de ces molécules.
Et la chimie analytique, dans la chimie, l'analyse, par exemple, nous sommes, vous l'avez dit, des usines chimiques, les analyses médicales, par exemple, elles mesurent justement dans notre sang, dans notre corps, voilà. La composition et le taux des éléments.
Exactement, donc vous êtes une magnifique usine chimique,
je
donc il y a à peu près 200 analyses classiques médicales, certaines que nos auditeurs connaissent bien, ça vont être par exemple les mesures d'éléments, alors on parle d'éléments chimiques, je parle du magnésium, je parle du calcium, puisqu'on sait que ces éléments-là, on en a besoin pour les os, on peut aussi mesurer des molécules, je pense à l'urée, je pense à des protéines, on peut mesurer des molécules un petit peu plus complexes, je pense au cholestérol, je pense à des hormones. Donc l'analyse chimique, l'analyse médicale a pour vocation d'aller mesurer soit des éléments, soit des molécules pour identifier des pathologies et permettre à votre médecin de poser un diagnostic à partir de ces analyses-là.
Alors aujourd'hui, on mesure, on va y revenir, mais vous le dites aussi dans votre livre, on mesure tout, on fait beaucoup d'analyses notamment. Ouais. C'est un peu compliqué parce qu'on a plein de chiffres comme ça et on sait pas trop ce que ça veut dire, ce que ça représente. Il y a des moyennes, mais on sait pas si c'est bien, si c'est pas bien.
Alors voilà, c'est une des forces motrices qui m'ont poussé à écrire ce livre, c'est me rendant compte un peu de la diversité, de la profusion, notamment dans notre quotidien. On est en permanence assommé avec des chiffres, des nombres, des mesures, tant de milligrammes, tant de kilos, tant de mètres cubes, tant de microgrammes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est un microgramme. Et on est amené à manipuler tous ces concepts-là sans réellement les connaître, sans réellement les comprendre. Et moi, j'avais envie que les gens se rendent compte, que mes lecteurs se rendent compte des enjeux qu'il y a derrière le fait de pouvoir mesurer, de pouvoir analyser, mais que c'est aussi une manipulation. On peut être manipulé. Par exemple, je cite dans mon livre l'exemple du Perrier aux États-Unis. Il y a quelques années, moi je sortais de mon école d'ingénieur en agroalimentaire, donc ça nous avait beaucoup marqué cette histoire-là, puisque Perrier, qui était vendu aux États-Unis, avait des parts de marché de plus en plus grossissantes, et il y a eu une espèce d'accident industriel vu des Américains avec des taux de benzène, donc une molécule assez nocive, qui était présente à des notions de ppm. Alors ppm sont des parties par million, non, ce sont des milligrammes par litre dans des quantités très très faibles. Et il se trouve que la norme américaine est un tout petit peu plus basse que la norme française, et que le fait d'avoir décelé ces traces de molécules ont complètement oblitéré les ventes de Perrier en Amérique du Nord pendant.
C'était pas une arme chimique, c'est une arme économique. Les deux, c'est
exactement,
ça,
hein, puisque Perrier, du coup, a malheureusement subi une OPA hostile et a quitté donc le giron de la France en termes de propriété pour un autre pays et pour une autre compagnie. Donc attention, parce qu'on peut être manipulé avec les notions de valeur, de mesure.
Dans les deux sens, d'ailleurs.
Dans les deux sens. Dans les deux sens. En fait, il y a une chose qui est très, très simple, c'est que une mesure, c'est quelque chose qui est ni bonne ni mauvaise. C'est une valeur, d'accord? Ce qui fait la richesse d'une mesure, c'est dans quel contexte on a fait cette mesure, à quoi ça correspond. Et là, l'homme de l'art, il est capable, à partir de la mesure, de sortir une information. Et cette information, c'est elle qui est pertinente, c'est elle qui a du sens, c'est elle qui permet de prendre des décisions. Mais une mesure en tant que telle, c'est comme si je vous disais bleu ou rouge. Ça ne suffit pas pour prendre une décision.
D'où l'intérêt de comprendre, hein, de quoi on parle autour
exactement.
De la question. Jusqu'où ira la chimie? Je propose de nous laisser galvaniser par les Chemical Brothers sur RFI Galvanize. Les Chemical Brothers sur RFI autour de la question jusqu'où ira la chimie, titre de l'essai de notre invité, le chercheur Stéphane Sarad. Jusqu'où ira la chimie dans l'analyse et la compréhension de l'infiniment petit? C'est la question que soulève Dominique Leglu, directrice de la rédaction du mensuel Science et Avenir.
La chimie, quand on la regarde à vraiment toute petite échelle, quand on la contraint dans les lieux où ont lieu les réactions, est-ce qu'elle est encore la même? Ou justement, est-ce qu'elle fait apparaître des propriétés nouvelles? Je pense aux nanoparticules qui, elles, montrent des propriétés nouvelles. Par exemple, de l'or qui, normalement, est neutre, à toute petite échelle, brusquement, il devient corrosif.
Des nanoparticules d'or corrosifs, que pouvez-vous répondre, Dominique Leglu, Stéphane Sarad?
Oui, alors en fait, c'est pas forcément l'élément or, l'élément chimique qui est modifié à la petite échelle. C'est en fait les propriétés de la structure même qui à petite échelle va avoir une réactivité différente. Je m'explique. Bah, si vous avez un kilo d'or, la surface d'un kilo d'or, donc qui va être la surface qui va permettre de faire des réactions, donc d'être corrosif, n'est pas du tout la même. Si on la compare à une nanoparticule d'or, où là, la masse sera très faible en regard de la surface développée. Quand je dis ça, je dis que la réactivité, elle est liée à la surface disponible par rapport à la masse de l'élément. Quand on rentre dans les nanomatériaux, quand on rentre dans les nanosystèmes, on se rend compte qu'on est, nous sommes dans des systèmes où la surface développée, donc la surface qui permet de faire des réactions, est beaucoup plus large. Donc la réactivité est plus importante, donc des réactions comme celle de la corrosion, sont accélérées du fait de la très grande surface disponible.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier, si j'ose dire, des nanoparticules, ou qu'il faut faire attention justement à ce que vous venez de nous dire, à cette question de surface et de réactivité beaucoup plus importante?
Ah, mais je dirais que c'est une chance. Et je dirais que pour moi, c'est même une chance, puisque si on pense à la chimie du futur, où il va falloir produire plus et mieux en consommant moins de matières premières, le fait de descendre à ces échelles-là nous permet de faire des réactions avec des temps beaucoup plus courts, avec des quantités de matière beaucoup plus faibles. Et donc ça, c'est pour moi un futur important. C'est toute la thématique des micro-procédés, des micro-réacteurs.
Qui intéresse les chimistes verts que vous êtes.
Qui intéresse bien sûr un chimiste vert comme moi, mais qui intéresse beaucoup, beaucoup de chimistes. À l'heure actuelle, vous avez notamment en Europe, en Allemagne, en Angleterre, des usines qui ont été conçues sur ces principes-là, où on va miniaturiser les réacteurs, les casseroles où on fait la chimie, on les fait tellement petites que il ne peut y avoir que la réaction sans aucune limitation. Et donc les rendements de réaction, les temps de réaction, les rendements sont très élevés, les temps sont très très courts. Donc ça permet de produire des quantités très importantes, même avec des volumes très très faibles.
Alors autour de la question jusqu'où ira la chimie, on l'a compris, dans l'infiniment petit,
ouais,
mais aussi dans l'infiniment grand, parce que c'est tout un aspect de la chimie qui permet d'aller quoi, explorer sur Mars, l'espace.
Exactement. La compréhension de ce que nous sommes, nous, modestes terriens, passe par le fait de comprendre d'où nous venons. Et peut-être où est-ce que nous allons. C'est notre capacité. Peut-être. Je suis beaucoup plus humble par rapport à ça. L'idée, c'est est-ce que nous sommes capables de comprendre comment les planètes se forment, comment les systèmes solaires se forment, pourquoi certaines planètes sont formées de tels éléments chimiques et d'autres plutôt avec d'autres éléments. Vous savez qu'un des grands enjeux à l'heure actuelle, c'est de trouver ce qu'on appelle une planète dans la golden zone, la zone dorée, c'est-à-dire la zone idéal entre un soleil et une planète qui
pour
permet
pouvoir y vivre.
Et pourquoi on va y vivre? Parce qu'il va y avoir de l'eau à l'état liquide. Et pour que l'eau ne soit ni gazeuse ni solide comme dans les glaçons, il faut trouver une zone idéale. Et comment on va déterminer comment on va identifier ces planètes dans un futur très très proche? Ça sera dans notre capacité à mesurer l'eau liquide présente.
L'isotope?
Alors, l'isotopie, c'est une signature encore plus fine de l'élément chimique. Puisque quand je vous parlais de l'oxygène ou du chlore, qui sont des éléments chimiques qu'on connaît bien, quand on a suivi des études classiques, en fait, il n'y a pas une molécule, enfin, il n'y a pas un élément oxygène, il y en a plusieurs. En fait, c'est une famille, et chaque élément de la famille, chaque frère et sœur, s'appelle des isotopes. Et ces isotopes, ils vont changer uniquement par le nombre de neutrons présents dans le noyau de cet élément chimique.
Et quand on cherche de l'eau liquide sur notre planète, il faut aussi qu'elle ait à peu près le même isotope que l'eau qu'il y a sur Terre. Donc ça complexifie
oui,
encore
disons
le...
Que si on trouve en plus des rapports isotopiques équivalents à ce qu'on a sur Terre, ça va nous rassurer sur la capacité à ce que cette planète puisse abriter la vie ou la voir se développer. Donc il y a toute cette problématique-là de l'analyse chimique qui est très importante pour imaginer si la vie est possible ou pas dans une autre planète. On a beaucoup travaillé dans mon département sur la mission ChemCam, dans le rover Curiosity qui est sur Mars. Voilà, en fait le rover Curiosity, vous rappelez à quoi il ressemble, hein. En gros, c'est une espèce de voiture de 800 kg où il y a 80 kg de matériel de chimie analytique justement qui est installé. Et au sommet de ce rover, il y a les yeux du rover, qui est une caméra laser, la LIPS, qui a été à la base développée, sélectionnée dans mon département à Saclay. Et quel est l'objectif de cette caméra? C'est d'analyser chimiquement l'environnement immédiat du rover, de manière à aller pouvoir faire les prélèvements à l'endroit le plus pertinent pour trouver des traces d'eau.
Autour de la question jusqu'où ira la chimie, on a bien compris, elle va déjà sur Mars. Peut-elle et doit-elle tout mesurer ici sur Terre? Nous poursuivons la réflexion dans 3 minutes, juste après le flash d'info. On se retrouve pour continuer ces analyses chimiques intelligentes. Mais jusqu'où? À tout de suite pour le savoir.
De la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Jusqu'où ira la chimie de la Joconde au test ADN ?» C'est le titre de l'essai paru au pommier de notre invité Stéphane Sarad, chef du département de physico-chimie du CEA à Saclay, chercheur engagé sur la voie de la chimie verte et dans la réflexion sur cette discipline multiforme et omniprésente. La chimie analytique est partout à l'œuvre dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, avec des systèmes d'analyse de plus en plus intelligents qui mesurent tout, de l'air que nous respirons aux produits chimiques que nous absorbons par tous les pores de notre peau.
Miroir, mon bon miroir, dis-moi qui est la plus belle. Des lèvres cerises? Pas loin de 15 composants dans un tube de rouge à lèvres. Des cires pour la consistance, des huiles pour la brillance, des pigments pour la couleur et l'aspect nacré. Et une petite dose de conservateur. Un regard intense? Des ingrédients du même type composent le mascara. Le petit plus, un film polymère qui enrobe les cils. Une peau toujours jeune? Grâce aux crèmes anti-âge, émulsion huile eau protégeant du dessèchement, enrichie de molécules piégeant les radicaux libres qui feraient vieillir la peau.
Petit extrait de l'abécédaire de la chimie au rayon beauté sur le site d'Universcience où l'on découvre que les molécules chimiques sont vraiment partout, Stéphane Sarad.
Et oui, que votre salle de bain est en fait un laboratoire de chimie.
C'est ça, on le savait pas.
Vous ne le saviez pas et pourtant c'est un beau laboratoire de chimie. Il y a beaucoup de produits chimiques.
Alors c'est celle-là qu'on a introduit dans notre environnement.
Tout à fait, ouais.
Des molécules artificielles. Mais la chimie, c'est toutes les matières qui nous composent aussi. C'est pas seulement celles qu'on a introduites dans l'environnement.
Voilà, ce sont d'abord des matières naturel. Souvent, moi, en tant que chimiste, on m'oppose le naturel au chimique, ce qui me fait quand même souvent rigoler parce que, voilà, nous sommes tous des machines chimiques, donc chimique ne veut pas dire artificiel. Prenez une banane, c'est à peu près 150 produits chimiques.
Une banane, c'est 150 produits chimiques.
Naturel.
L'air que nous respirons, qui est mesuré dans les grandes villes, pour mesurer là, en l'occurrence, la pollution aussi, mais pour mesurer l'air.
C'est tout à fait. L'eau est une molécule chimique aussi. C'est même une molécule dangereuse, l'eau, puisqu'il y a...
Molécule dangereuse, l'eau.
Oui, tout à fait.
L'abus d'eau est dangereux pour la santé.
Non, vous allez vite comprendre. À Louisville, dans le Kentucky, aux États-Unis, les gens avaient un gros souci à la municipalité, parce que les jeunes se baignaient dans les fontaines publiques. Ils ont mis un panneau à côté de la fontaine. Il y a marqué « Attention, cette eau contient des quantités importantes d'hydrogène. » Et plus personne ne se baigne dans les fontaines.
Alors que l'hydrogène...
La molécule d'eau, c'est deux atomes d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Il n'y a pas plus naturel que ça. Donc c'est vrai, l'eau contient beaucoup d'hydrogène. Mais le fait de mettre ce panneau a affolé les populations qui avaient envie de se baigner dans les fontaines publiques. Donc vous voyez qu'on peut manipuler l'esprit des gens en faisant croire que l'eau est une molécule dangereuse.
C'est ça, ça peut être chimique l'eau.
L'eau est chimique.
Alors autour de la question jusqu'où ira la chimie, je sais pas si elle affole, mais en tout cas elle est aussi présente sur beaucoup d'autres terrains, notamment ceux des policiers, de la police scientifique.
Elle sert aux enquêtes, effectivement. Alors elle sert à plusieurs niveaux. Bon, le premier niveau qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr les tests ADN. Comment identifier
le meurtrier.
Alors il y a eu historiquement bien sûr les empreintes digitales qui faisaient aussi beaucoup appel à la chimie, puisque pour révéler, pour mettre en lumière les empreintes digitales, il fallait beaucoup de réactifs chimiques les choses sont devenues beaucoup plus sophistiquées avec l'analyse ADN qui permet en un temps relativement court d'avoir une identification très très précise d'un individu. Donc ça c'est pour les aspects ADN, mais il y a aussi les aspects scène de crime. Et si vous êtes habitué des séries télévisées américaines, vous comprendrez ce que je veux dire quand je vous dis que on voit des fois la télévision française à 20h30 des gens parler de spectromètres de masse, de microscopes électroniques à balayage. Moi ça me ravit.
Oui, parce qu'en fait ce sont des outils.
Ce sont des vrais outils
dont se servent effectivement.
Exactement, les polices scientifiques
et qui ont été faits par les chimistes.
Bien sûr, et qui sont des outils de chimie. De la chimie analytique, ce sont des vrais outils qu'il y a dans le laboratoire, et moi d'aller voir à 20h30 sur des chaînes de grand public, c'est un vrai bonheur pour moi, et ce qui est encore mieux c'est quand les gens s'intéressent à ces aspects-là, à ces techniques-là. Il y a eu des événements très dramatiques. Je me rappelle pendant l'accident de Diana où on s'était posé la question du véhicule avec la nature de la peinture. Et c'est vrai que nous, dans notre département à Saclay, nous avons travaillé à la police scientifique pour mettre au point des méthodes d'analyse de fragments de peinture pour analyser leur composition dans un temps très très court. Ayant leur composition, on a le fabricant. Ayant le fabricant, on peut avoir les modèles de voitures correspondants. Uniquement donc à partir d'un fragment de peinture, la police peut très rapidement, sur une scène de crime, un accident, on peut revenir assez rapidement sur un ou plusieurs possibilités de nature de véhicule.
Ça, c'est ce que vous avez pu mettre au point en tant que chimiste.
On a formé des gens de la gendarmerie nationale à venir se former à nos techniques d'analyse pour ces objets-là, pour avoir une cartographie des peintures, pour identifier très très rapidement des véhicules.
Et ce sont aussi des analyses chimiques qui peuvent servir à des conservateurs d'œuvres d'art, pour étudier des tableaux, pour conserver ou retrouver l'origine d'un tableau.
Alors d'abord, je dirais que peut-être que la première chose, ce sont les fraudes. Je dirais que la chimie aide l'art dans la mesure où la chimie est capable d'apporter une réponse claire et précise sur oui, c'est une œuvre originale, non, c'est une contrefaçon.
En datant les
composants, en datant les pigments, en datant les pigments organiques, donc la peinture, mais aussi les pigments minéraux, hein, le plomb, les éléments métalliques qu'il y a dans les toiles, en datant le châssis, c'est-à-dire la toile proprement dite. Ça permet aux conservateurs d'identifier ou pas des œuvres. Et après, comprenant ce qui se passe, quels ont été les produits chimiques qui ont été utilisés, alors l'historien de l'art peut comprendre pourquoi Rembrandt utilisait des pigments à base de plomb, mais ce plomb ne venait pas de Hollande, il venait de l'Est de l'Europe. Donc il avait des connexions avec l'Est de l'Europe, donc ça éclaire le fait qu'il ait eu des relations avec tel ou tel artiste. Vous voyez que tout est chimie.
Et quand l'archimie mène l'enquête autour de la question jusqu'où ira la chimie, je vous propose, Stéphane Sarah, d'un nouvel éclairage en forme de question posé par le médecin légiste et paléopathologiste Philippe Charlier, qui lui se sert de la chimie pour faire parler les morts et qui était récemment notre invité. On l'écoute.
On se sert de la chimie en médecine légale quasiment tous les jours, qu'il s'agisse d'identifier des restes biologiques ou de rechercher des toxiques. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il y a une légende qui court au 19e siècle sur l'utilisation de cœurs de roi dans des peintures, des cœurs de Louis XIII, de Louis XIV et également d'autres familles royales qui ont été transformés en pigments et utilisés pour faire un rouge extrêmement intense dans plusieurs peintures, que ce soit au musée du Louvre ou ailleurs. Est-ce que la chimie maintenant nous offre les moyens technologiques d'identifier de l'hémoglobine ou d'autres principes spécifiques au sang humain dans ces peintures? Si oui, me contactez.
Je vous donnerai ses coordonnées, Stéphane
oui,
Sarah, si
plaisir.
Vous répondez à son étrange question, la question du médecin légiste Philippe Charlier.
Alors, je vais peut-être répondre à une question qu'il n'a pas posée, mais qui est l'inverse. On sait démontrer que ce n'est pas du sang. Et ça a déjà été démontré, puisque, rappelez-vous l'histoire du Saint-Suaire, où des traces de sang étaient censées exister et dater de presque 2000 ans.
De Jésus-Christ, oui.
Voilà. Et en fait, l'analyse chimique a permis de démontrer que ce n'était pas du sang. Dans le cas de la question qui est posée, il faut revenir à la composition du sang. Le sang, ce sont des protéines, ce sont des différents éléments chimiques, mais ce sont aussi des éléments du fer. Vous savez que le fer, les globules rouges, les hématies, contiennent un noyau, des éléments de fer. Alors moi, je dirais que si j'avais à analyser, je suis pas sûr que j'irais sur ce qu'on appelle la partie organique, c'est-à-dire l'hémoglobine. On peut imaginer qu'ayant été mis en œuvre, le sang a pu être altéré, les molécules ont pu être altérées, et puis
vous allez chercher s'il y a du fer.
Ouais. Et surtout ce que j'irai rechercher, c'est quels isotopes du fer on va avoir, de manière à peut-être commencer à voir s'il y a une corrélation entre ce fer présent qui lui est beaucoup plus stable que les molécules organiques. Sur 500 ans, 600 ans, un élément de fer n'a pas de raison de bouger.
Et on pourrait aller jusqu'à prouver, si on prouvait que c'était, il y avait du fer, que ces peintures provenaient donc de sang, que ce serait du sang de roi.
Je suis pas sûr que ça suffirait à prouver de manière certaine. En tout cas, ça permettrait d'amener des pistes.
Des pistes, ça permet aussi, alors c'est peut-être un mauvais jeu de mots, mais de redorer un peu le blason des chimistes qui sont quand même souvent des gens mal aimés. On a peur de la chimie, alors que vous dites on la regarde dans les séries télévisées, on s'en sert dans nos analyses médicales tout le temps, on s'en sert tout le temps, elle est autour de nous. Mais vous nous faites un petit peu peur, vous les chimistes.
Alors, est-ce que c'est nous qui faisons peur ou c'est la représentation que l'on fait de nous qui fait peur? Oui, la chimie fait peur, et la chimie, bon, déjà c'est pas une discipline, on en a parlé tout à l'heure, qui est pas une discipline extrêmement glamour.
Et puis c'est aussi que notre environnement, on sait qu'on est de plus en plus entouré de molécules chimiques, il y a la question des perturbateurs endocriniens, on en met beaucoup des molécules chimiques, il y a même d'ailleurs des directives très précises européennes pour réglementer tout ça, mais c'est, je pense, ça aussi qu'on est entouré de chimie.
Mais on est entouré de chimie, on est entouré de la chimie et on connaît bien les effets néfastes de la chimie et il faut forcément les prendre en compte et forcément les combattre, mais on a quand même une tendance globale à ne jamais parler des trains qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire de la chimie qui sauve des vies par les médicaments, la chimie qui permet de conserver des aliments, cette chimie qui permet de vivre beaucoup plus vieux que ce que vivaient nos arrière-grands-parents. Donc je dirais, la chimie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce que nous en faisons. C'est clair que si nous saturons notre environnement de molécules chimiques, notamment des molécules artificielles, forcément, ça aura un impact sur l'environnement et sur notre santé.
Et ce sont des questions que se coltinent, si j'ose dire, les chimistes comme vous. Hein. Autour de la question jusqu'où va la chimie, vous cherchez notamment à fabriquer du plastique avec autre chose que du pétrole.
Oui, tout à fait. Alors, la chimie du 21e siècle, c'est une chimie qui est forcément différente de la chimie, qui sera forcément différente de la chimie du XXe siècle. Pourquoi? La chimie industrielle du XXe siècle, c'est la chimie du pétrole. Matière première pétrole. Pour faire des plastiques, pour faire des matériaux synthétiques, pour faire des pare-chocs de voitures. Le pétrole, c'est une énergie fossile. On le sait depuis très longtemps, mais maintenant, on le voit réellement. Donc, il est urgent de trouver d'autres sources de matières premières, notamment des matières premières renouvelables. Et c'est pour ça que les chimistes s'intéressent notamment à des sources qui sont nos déchets, les déchets végétaux. Et puis, il y a aussi le fait qu'un déchet, ça peut être considéré comme une nouvelle matière première. Donc toute la notion de recyclable, de recyclabilité, de rendre un objet recyclable, de l'avoir conçu pour être recyclable.
Dès le départ.
Dès le départ. C'est ça, les bases de la chimie verte, ce n'est que ça. C'est de ne pas réfléchir en termes de réactions chimiques. Plus on va produire plus on aura une réaction importante, plus on produira, plus on sera riche. Ça, c'était le XXe siècle. C'est plus possible de raisonner comme ça. À l'heure actuelle, on va raisonner en disant... Quelle matière première je vais utiliser? Quel solvant je vais mettre en jeu? Quelle énergie je vais utiliser? Et quels déchets je vais produire? Et la chimie verte, c'est juste une manière d'aborder les processus chimiques en réfléchissant dans la globalité. Matière première, énergie, solvant et déchets.
Et vous avez des pistes de ce côté-là?
Il y en a des pistes, il y a déjà des choses qui existent.
Par exemple,
sur l'extraction de produits végétaux. Pour l'agroalimentaire, pour la pharmacie, la cosmétique. Pendant très longtemps, on a fait de l'extraction avec ce qu'on appelle des solvants organiques. Hein. Même si vous n'avez pas fait de chimie, vous avez entendu parler du benzène, du chloroforme, du dichlorométhane. Eh bien, depuis 30 ans, 40 ans, on peut faire de l'extraction, non pas avec ces molécules-là, mais avec du gaz carbonique, du CO2. Et mais alors, pas du CO2 qu'on a l'habitude de rencontrer dans les bouteilles de soda, mais du CO2 supercritique. C'est-à-dire du CO2
supercritique.
C'est-à-dire c'est une phase de la matière qui n'est plus une phase gazeuse, plus une phase liquide, mais une phase intermédiaire. Et le CO2 supercritique, c'est du CO2 à 200, 300 bars, à 40 degrés, 35 degrés Celsius, 40 degrés Celsius, et il devient un solvant, et on fait de la chimie, sans utiliser de solvant organique.
D'où l'intérêt de faire avancer les connaissances pour aller de plus en plus loin dans cette matière-là.
Dans cette matière-là, sur aussi le fait que plus on travaillera là-dessus, plus les procédés, moins les procédés coûteront cher, et plus on pourra les distribuer dans la totalité des parties du monde. Et moi, je pense surtout aux fameux BRICS. Vous savez, ces pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, où là, la démographie est très importante et explose, où les besoins explosent. Et il est urgent pour moi qu'ils soient les premiers à utiliser cette nouvelle chimie. Et non pas à commettre la même erreur que nous avons commis nous au XXe siècle en utilisant une chimie qui a un impact sur l'environnement et sur les individus qui est un impact rémanent. Donc il faut travailler sur ces nouvelles sources de chimie et ce n'est pas un hasard si à l'heure actuelle dans le monde c'est l'Asie qui est une région motrice dans ces concepts de chimie verte et de chimie durable.
Autour de la question jusqu'où ira la chimie, bon bah tant pis si comme les Brigitte, on adore le pétrole, pétrole pop sur RFI.
autour du pétrole. Qu'il y a du pétrole, je flambe.
Pétrole avec les Brigitte sur RFI. Nous découvrons avec notre invité Stéphane Sarade qui a d'autres pistes chimiques que le pétrole pour fabriquer notamment du plastique. Autour de la question, jusqu'où ira la chimie? Ira-t-elle jusqu'à fabriquer du vivant avec d'autres brins d'ADN? C'est l'éclairage en forme de question du biologiste Pierre-Henri Gouillon.
La frontière chimie-biologie s'est un peu estompée à certains points de vue ces derniers temps, et surtout avec la biologie synthétique, où au fond maintenant on synthétise chimiquement des ADN, et où on pourrait imaginer d'ailleurs, on peut commencer à faire des ADN qui soient pas du tout des ADN constitués avec les mêmes constituants chimiques que l'ADN normal. Ça a un petit côté effrayant. En même temps, on peut se dire, au fond, si jamais c'est un ADN totalement différent de l'ADN normal, il risque pas d'aller contaminer les êtres normaux, parce que, a priori, ça marchera pas chez eux. Voilà, je voudrais savoir quel est l'avis d'un chimiste sur ces tentatives de fabrication chimique de nouvelles formes de vie.
Votre avis, Stéphane Sarade, sur ces nouvelles formes de fabrication chimique de nouvelles formes de vie?
Alors effectivement, d'un point de vue théorique et expérimental, rien n'interdit de penser qu'on sait fabriquer, qu'on pourra fabriquer très rapidement de l'ADN de synthèse. J'irai même plus loin. Je pense qu'un des enjeux majeurs à l'heure actuelle, dans grand nombre de laboratoires, c'est de fabriquer la première cellule synthétique. Cellule vivante, c'est-à-dire une cellule, c'est un noyau de l'ADN, des protéines, des mitochondries, toute une ingénierie cellulaire qu'on peut imaginer totalement synthétique. Pour moi, il n'y a pas de verrou technique fondamental. Après, il y aura la capacité à faire ça. Il faut que vous imaginiez qu'en l'an 2000, décrypter le génome humain, ça coûtait à peu près 2 milliards de dollars. À l'heure actuelle, en 2015, on peut se faire décrypter son génome en commandant sur Internet pour 1000 dollars. 15 ans. C'est rien du tout à l'échelle humaine. Ce qui paraissait complètement incommensurable, inatteignable en 2000, c'est en vente sur Internet à l'heure actuelle.
Donc vous dites, pour la biologie de synthèse, il pourrait se produire.
Alors après, c'est toujours pareil. La chimie, hein, c'est ce que les hommes en font. Les hommes, les biologistes, les chimistes, c'est ce que nous en ferons, qui peut ou pas être rédhibitoire. Si effectivement on mettait en route une ingénierie cellulaire complètement anarchique, qu'on ne saurait pas arrêter, qui pourrait proliférer de manière totale et colossale, un peu comme l'algue tueuse Caulerpa taxifolia en Méditerranée, bon, qui n'est pas synthétique, mais pour donner une image de cette prolifération. Puisqu'effectivement, si elle est synthétique, ça veut dire qu'elle n'a pas de prédateur. Elle n'a pas de contre-pouvoir naturel. Donc un des risques,
Elle
pourrait proliférer. Donc il faudra forcément réfléchir à mettre en place des systèmes pour que de telles créations ne puissent pas être totalement anarchiques. Oui, forcément. Forcément, ça fait peur, mais forcément, ça fait poser les questions. Et ça, c'est plutôt salutaire.
Oui, c'est ça. Vous vous dites, au fond, il faut poser les questions.
Il faut poser les questions.
On pourrait aller jusque-là.
La première fois qu'on a soigné quelqu'un avec un médicament de synthèse, la première fois où on a injecté à un patient une molécule chimique synthétique, il y avait de quoi avoir peur, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours, et c'est ce qui sauve des vies.
Et c'est ce qui sauve des vies. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Et on se pose même pas la question éthique de dire, mais attendez, moi je suis un élément naturel, vous m'injectez une molécule qui n'existe pas naturellement à la surface de la planète. Bon, voilà. Donc, il y a bien des questions. Je crois que la base de la science, et c'est un peu aussi ça qui est un peu reproché aux chimistes, hein, et je l'entends en tant que chimiste, en disant, de toute façon, mais vous allez faire n'importe quoi, vous fabriquez des trucs, vous y réfléchissez pas. Bon, c'est un peu réducteur, je crois que...
Vous y réfléchissez, et les chimistes se posent aujourd'hui ces questions-là.
Mais je dirais que, très honnêtement, ils se sont toujours posés ces questions-là. Après, c'est, est-ce qu'ils sont entendus? ce que la société fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des savons maintenant qui ne font pas que laver? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savons qui donnent un teint allé, qui vont être antiseptiques? Mais parce qu'il y a des prescripteurs, parce qu'il y a des consommateurs.
Et du coup, il y a beaucoup de molécules chimiques en jeu.
Et du coup, il y a beaucoup de... Avant, on utilisait un savon, qu'est-ce que c'était? C'était un surfactant, c'était un élément qui permettait de solubiliser les graisses, hein, donc la saleté, et de se laver les mains. Maintenant, il faut que le savon, il vous donne un teint frais, qui soit antiseptique, qui ait une petite odeur assez sympa, hein, d'ailleurs. Ça, c'est un surajout de molécules chimiques, mais qui sont faites pas par les chimistes. Ils sont faits par les chimistes parce qu'il y a des prescripteurs, il y a des gens qui achètent ça.
Donc il faut, vous dites, se poser les bonnes questions. Et dans ce petit livre, hein, Jusqu'où ira la chimie, aux éditions du Pommier, vous posez notamment les questions, on y revient, hein, de l'analyse et surtout de la mesure. Et vous dites aujourd'hui, on peut absolument tout mesurer. Au fond, on n'y comprend pas grand-chose à ce qu'on mesure. On voit même des montres très très intelligentes qui mesurent tout le nombre de pas qu'on fait, qui vont bientôt mesurer notre taux de pression sanguine, etc. Et vous dites peut-être, enfin attention, en tout cas, il faut se poser les bonnes questions par rapport à toutes ces mesures.
Oui. Alors, en fait, à la base, une montre de ce type, j'en ai une au poignet. Ça a été mon cadeau de Noël que ma compagne m'a fait. Et ça tombe même.
Vous pouvez tout mesurer sur vous. Hein, sur vous-même.
Déjà, on peut mesurer, effectivement, si j'ai bien dormi, on peut mesurer le nombre de pas que je fais. Et je me suis du coup intéressé à l'analyse chimique dans ces futurs produits qui vont sortir très très rapidement avec des marques que tout le monde connaît d'ailleurs.
Des marques assez prédatrices d'ailleurs.
Assez prédatrices, ouais. Et où on va être capable de mesurer des choses incroyables comme la pression sanguine, tout ce qui va être lié à l'hypertension artérielle, le taux de sucre, l'oxygénation du sang. Un jour, on va pouvoir mesurer l'alcoolémie.
Avec la petite montre au poignet.
Avec la petite montre au poignet. Mmh. Donc, moi, je me suis dit, ok, mais ça, ce sont des données qui me concernent. Est-ce que j'ai envie que quelqu'un y ait accès? Absolument pas.
Mais si elles partent dans les nuages, ça peut être un peu embêtant.
Exactement. Le nuage est le nom tout à fait exact, puisqu'en informatique, on sait que ces données-là nourrissent ce qu'on appelle les big data. Donc, ces fameux nuages qui vont collecter ça. Et moi, je me suis dit, mais si un jour, je sais pas, un banquier, un assureur me dit, mais monsieur Sarad, vous voulez emprunter sur 20 ans pour une maison, mais attendez, nous, on a accès à des données qui nous disent que là, vous serez pas en bonne santé dans 15, 20 ans. On n'a peut-être pas envie de vous prêter de l'argent, ou en tout cas, si on vous en prête, vous allez payer peut-être une surprime. Et donc, je me suis mis à imaginer ce que pouvait être le danger, le risque, si les données qui nous concernent, et c'est tout à fait à notre bénéfice, puisque c'est pour mieux vivre, c'est pour mieux anticiper notre état de santé, donc c'est tout à fait, à la base, c'est tout à fait favorable. Mais il y a un risque, c'est allons-nous rester propriétaires des données qui nous concerne.
C'est ça. Et c'est pour qui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on mesure tout ça? Et pour le donner à qui?
Voilà.
À quel destinataire et dans
Exactement.
Quel but?
Donc, si nous sommes le destinataire final et unique, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais il faudra qu'il y ait mise en place de réglementations, de procédures qui vont garantir que les données qui me concernent ne seront pas accessibles à, notamment à la personne qui m'a vendu la montre.
Et oui, du coup, vous mettez le doigt sur ce qui peut fâcher en tant que chimiste, justement, en travaillant sur la chimie analytique, vous mettez le doigt sur ce qui peut fâcher en nous disant quoi? Il faut qu'on en soit conscient, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on sache où on va sans se fermer les yeux et sans dire au secours, mais en disant, voilà, on en est là, où veut-on aller ensemble?
Exactement. Ça serait illusoire de dire ça n'arrivera pas. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la posture, mais ça n'arrivera pas, moi je n'en achèterai pas, c'est pas moi. Ok, mais c'est illusoire de croire que la majorité va faire ça. C'est le progrès. Le progrès, c'est une évolution qui, à la fois, nous pousse ou nous tire, ça dépend de quel côté on se trouve. Donc, comme toutes choses qui vont arriver, comme Internet est arrivé un jour, comme la téléphonie mobile est arrivée un jour, il est important de se poser les questions de qu'est-ce qu'on va faire avec et quelles sont les limites que l'on souhaite dès maintenant mettre en place pour éviter de traiter les choses a posteriori.
Merci infiniment Stéphane Sarad d'être venu en direct nous faire partager donc toutes ces interrogations et vos pistes de recherche également. Je rappelle le titre de ce petit essai très instructif qui pose donc toutes les bonnes questions: Jusqu'où ira la chimie, de la Joconde au test ADN, qui vient de paraître dans la collection Les grandes petites pommes du savoir aux éditions du Pommier. Merci à vous.
Merci à vous.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Demain, c'est un autre genre d'analyse que nous vous proposerons avec le philosophe Michel Lacroix. Autour de la question « Quel humanisme pour le temps présent ?», il sera aussi question de choix individuel et de liberté à inventer ensemble. Et ça aussi, c'est urgent avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs et internautes, portez-vous bien. Surtout, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Dans quelques instants, un nouveau journal sur la Radio Mondiale.